Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Il est 19h30 en temps universel. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter une nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire en ce mardi 7 février 2023. Le président américain Joe Biden prononce ce soir le discours sur l'état de l'Union, une allocution de politique générale aux enjeux conséquents. Les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie ont fait plus de 7000 morts d'après les derniers bilans. En visite au Mali, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, promet l'aide de Moscou aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée contre le djihadisme. Des enquêtes ouvertes après la mort présumée de pèlerins nigérians musulmans au Burkina Faso. Et puis à venir dans environ 10 minutes, vos rubriques habituelles, l'économie et les sports. Allocution très attendue ce soir du président Joe Biden devant le Congrès pour son deuxième discours sur l'état de l'Union. Un récent sondage montre qu'une majorité d'Américains jugent négatif son bilan à la tête des États-Unis. Davantage avec Abdourahman Zia.
À 80 ans, Joe Biden va tenter de convaincre ses compatriotes qu'il est leur meilleure option, même s'il n'a pas encore annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Devant un congrès dont l'une des chambres, celle des représentants, est aux mains des républicains, Joe Biden va livrer un message d'optimisme, même s'il y a encore des progrès à faire, selon son principal conseiller économique, Brian Deese. Les indicateurs économiques sont positifs, croissance robuste, chômage faible et une inflation qui se calme après avoir éprouvé durement les ménages. Mais les sondages montrent un tableau différent. Malgré les énormes investissements et réformes votées à l'initiative de Joe Biden, 62% des Américains estiment que leur président n'a pas fait grand-chose, voire rien fait ou presque depuis janvier 2021, selon un sondage Washington Post ABC. Le discours sur l'état de l'Union est la longue allocution annuelle par laquelle chaque président américain décrit son bilan et expose ses projets face au Congrès. Cette année, on s'attend à une place très importante de dossiers internationaux comme la guerre en Ukraine ou les tensions avec la Chine.
Les recherches pour retrouver d'éventuels rescapés se poursuivent au lendemain des puissants tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie voisine. Un dernier bilan provisoire fait état de plus de 7000 morts. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré l'état d'urgence dans 10 provinces. 45 pays ont proposé leur aide. Les détails avec Nathalie Barge.
En Turquie, le nouveau bilan est de plus de 3400 morts et 20500 blessés. En Syrie, au moins 1600 personnes sont mortes et plus de 3600 blessées. Côté turc, on dénombre près de 5000 immeubles effondrés. La chute des températures fait courir un risque d'hypothermie aux personnes coincées dans les ruines. À Hatay, à la frontière syrienne, les secours s'activent dans le froid glacial. Des rescapés grelottent sous des tentes ou autour de feux improvisés. Le footballeur ghanéen Christian Atsu, qui a rejoint le club turc de Hatay Sport, a été retrouvé vivant dans un immeuble effondré. Le président américain Joe Biden a promis toute l'aide nécessaire. La Maison-Blanche a indiqué qu'environ 160 secouristes se préparent à se rendre sur place. La Chine a annoncé l'envoi d'une aide de 5,9 millions de dollars, incluant des secouristes spécialisés en milieu urbain, des équipes médicales et du matériel d'urgence. En Syrie, la Russie a promis des équipes de secours dans les prochaines heures, alors que plus de 300 militaires russes sont déjà sur les lieux en soutien aux sauveteurs. La première secousse lundi, suivie de plusieurs fortes répliques, a atteint une magnitude de 7,8 et été ressentie jusqu'au Liban, à Chypre et dans le nord de l'Irak. Hier, 185 répliques ont été enregistrées. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis celui du 17 août 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes. Le pays est en deuil national pour 7 jours.
Le chef de la diplomatie russe a promis l'aide de Moscou aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée face aux djihadistes. Sergueï Lavrov s'est exprimé aujourd'hui lors d'une conférence de presse conjointe à Bamako avec son homologue malien Abdoulaye Diop. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le ministre russe des Affaires étrangères affirme poursuivre le soutien militaire matérialisé par des livraisons d'armes et l'envoi de centaines d'hommes au Mali. Sergueï Lavrov veut étendre cette aide aux autres pays sahéliens et au-delà.
La lutte contre le terrorisme est bien sûr d'actualité pour les autres pays de la région. Nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays riverains du golfe de Guinée.
M. Lavrov a aussi promis un engagement russe accru sur le continent, confronté selon lui aux approches néocoloniales, soutenant qu'il faut régler les problèmes africains avec des solutions africaines. La visite de Sergueï Lavrov au Mali concrétise le rapprochement opéré par les militaires maliens depuis 2021 qui ont rompu l'alliance militaire avec la France.
Alors que Sergueï Lavrov se trouve au Mali, la ministre française Chrysoula Zakharopoulou a salué à Niamey aujourd'hui la trajectoire démocratique du Niger dans cette région frappée par les putschs et les attaques djihadistes. La secrétaire d'État au développement a assuré le pays du soutien de l'Europe face aux défis qu'il doit affronter et à l'offensive russe au Sahel. Nous sommes déterminés à accompagner le Niger face aux nombreux défis qu'il affronte courageusement, en particulier sécuritaire et économique, a-t-elle déclaré à l'ouverture d'un business forum entre l'Union européenne et le Niger. Des enquêtes ont été ouvertes après la mort présumée de pèlerins nigérians musulmans au Burkina Faso, dont le nombre est encore inconnu. C'est ce qu'a indiqué hier la ministre des Affaires étrangères burkinabé dans un communiqué de Ouagadougou, le compte-rendu de notre correspondant Lamine Traoré.
Le ministre des Affaires étrangères, Olivier Rouamba, qui s'est entretenu avec Missitour Abdul Rahim, l'ambassadeur du Nigeria au Burkina Faso, a assuré que des enquêtes sont ouvertes pour élucider la situation. Pour le moment, aucune information concrète ni élément n'a été enregistrée sur le terrain qui prouve la véracité des faits, a déclaré le ministre Rouamba. Selon le communiqué, les autorités sécuritaires burkinabè avaient fortement déconseillé aux pèlerins nigériens l'emprunt de cet axe au regard des énormes risques d'attaque. Le ministre Rouamba a précisé que le Burkina Faso désapprouve fondamentalement les accusations portées contre les forces de défense et de sécurité dans ces allégations de tuerie de civils et il est important, selon le ministre, d'éviter des tensions inutiles entre deux pays frères et amis qui ont toujours entretenu d'excellentes relations de coopération. Par ailleurs, au moins 25 personnes ont été tuées samedi, dont 22 civils et 3 policiers dans une attaque d'hommes armés à Bani dans le Sahel burkinabé, a annoncé lundi soir le gouverneur de la région qui livre ce dernier bilan. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Un automobiliste rwandais a été reconnu coupable aujourd'hui d'avoir tué accidentellement un journaliste critique du pouvoir et a été condamné à verser une amende de 1 000 000 de francs rwandais. John Williams Twali, 44 ans, rédacteur en chef du journal The Chronicles, est mort le 18 janvier dernier lorsqu'un véhicule a percuté la moto sur laquelle il se trouvait en tant que passager près de la capitale Kigali. Le conducteur du véhicule, Moïse Emmanuel Barichia, a plaidé coupable et s'est excusé pour l'accident, a indiqué le magistrat du tribunal de Kagarama à Kigali en charge du dossier.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine va recevoir dans les prochains mois au moins 100 chars Léopard 1 à 5, des modèles anciens de blindés de combat. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. Ces chars de fabrication allemande seront remis à neuf à partir des stocks industriels, expliquent les trois pays. L'annonce intervient au moment où Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, effectue une visite surprise à Kiev. Pendant deux décennies, la police de Londres employait l'un des pires prédateurs sexuels de l'histoire récente au Royaume-Uni, David Carrick, a été condamné à la prison à perpétuité pour des dizaines de viols et agressions sexuelles sur 12 femmes. « Vous avez profité de façon monstrueuse des femmes », a déclaré aujourd'hui la juge Bobby Chimagrub en rendant son jugement qui conclut une affaire aggravant la crise de confiance plombant Scotland Yard, sourde aux alertes concernant l'un de ses agents. « Vous vous êtes comporté comme si vous étiez intouchable parce qu'étant membre de la police », a-t-elle ajouté.
L'État américain du Missouri prévoit d'exécuter ce mardi un homme condamné à la peine de mort pour un quadruple meurtre qu'il nie. Leonard Taylor, un Africain-américain de 58 ans, doit recevoir une injection létale dans le pénitencier de Potosi. Il a été condamné à la peine capitale en 2008 pour le meurtre de sa petite amie et des trois enfants de cette dernière, âgés de 5 à 10 ans. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Mohamed Oumfa.
Au Cameroun, le président Paul Biya a signé lundi un décret habilitant son ministre de l'économie à signer avec la Banque islamique de développement un accord de prêt d'environ 21 milliards de francs CFA. Cet argent permettra d'aider à la réhabilitation et l'aménagement des infrastructures de base, la revitalisation économique et la promotion de la cohésion sociale du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en conflit de sécession depuis 2017. La Banque mondiale a accordé un financement de 50 millions de dollars à la Guinée-Bissau pour aider à mettre en œuvre son projet de renforcement du secteur public et de protection de ses zones côtières. L'accord a été signé lundi à Bissau par le ministre des Finances, Ilidio Vieraté, et la représentante résidente de la Banque mondiale en Guinée-Bissau, Anne-Lucie Lefebvre. 98% des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur se font par voie maritime via 7 ports de commerce, a révélé lundi le ministre tunisien des Transports. S'adressant aux médias en marge d'un atelier sur la résilience des ports et la qualité des infrastructures, il a en outre annoncé le lancement d'un programme national pour renforcer la compétitivité et la performance du système de transport maritime en Tunisie.
Et maintenant, résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouidraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Christian Atsu retrouvé vivant dans les décombres en Turquie.
Et oui Jacques, c'est un soulagement pour sa famille et ses proches et pour l'ensemble du monde du football. Le footballeur ghanéen s'était retrouvé hier lundi coincé sous les gravats du tremblement de terre à Hatay, dans le sud de la Turquie. Le joueur de 31 ans avait rejoint en septembre le club de Hatay Spor, basé dans cette province près de l'épicentre du violent séisme qui a frappé lundi la Turquie. J'ai de bonnes nouvelles, je viens d'être informé par le président de l'association ghanéenne que Christian Atsu a été retrouvé à Hatay, a déclaré l'ambassadrice Francisca Aïchetey Odonton. La Fédération de football du Ghana a aussi confirmé que le joueur a été retrouvé vivant.
Début ce soir des demi-finales du Mondial des clubs.
Les Brésiliens de Flamengo affrontent les Saoudiens d'Al Hilal dans la première demi-finale à Tanger. Au tour précédent, Al Hilal du Malien Moussa Mariga s'est imposé au tir au but contre le Wydad Casablanca. Mercredi, demain donc, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, fera son entrée dans la compétition contre le club égyptien d'Al Ahly, qui a éliminé Auckland City 3-0 et les Seattle Sounders 1-0. Pour atteindre les demi-finales, le Real détient le record de sacres dans la compétition, 4 titres. Les vainqueurs des deux rencontres disputeront la finale de ce mondial des clubs samedi à Rabat.
NBA Golden State assomme le Thunder.
Le champion en titre a englouti le Thunder d'Oklahoma City 141-114. L'horizon est plus dégagé à l'est pour Milwaukee, qui a décroché une huitième victoire de rang à Portland 127-108. Dans les autres rencontres, Brooklyn s'est incliné 124-116 à domicile contre les Los Angeles Clippers. Dallas s'est imposé dans le Utah 124-111. LeBron James a rendez-vous ce soir avec l'histoire à Los Angeles sur le parquet de l'ex-Staples Center. Les Lakers affrontent le Thunder d'Oklahoma City et King James peut dépasser la légende Karim Abdul-Jabbar. 38 387 points, il ne lui manque que 36 unités pour réaliser cet exploit.
Boxe, Anthony Joshua va affronter l'Américain Franklin à Londres en avril.
L'ancien champion du monde des poids lourds britanniques l'a annoncé hier lundi sur son compte Twitter. Anthony Joshua va défier l'Américain Jermaine Franklin à l'O2 Arena de Londres le 1er avril. Joshua, 24 victoires dont 22 par KO et 3 défaites, s'apprête à remonter sur le ring. Ainsi, après 2 défaites consécutives face au gaucher ukrainien Alexandre Yukich, La dernière en date remontant août dernier en Arabie Saoudite, âgé de 28 ans, Franklin, 21 victoires, dont 14 par KO et une seule défaite, sera le premier adversaire pour le retour d'AJ au plus haut niveau, toujours en quête d'une victoire depuis celle remportée sur Kubrat Pulev en 2020. Joshua avait été vu dans le public en novembre dernier lorsque Franklin a perdu contre Dillian White à la Wembley Arena de Londres, la première et à ce jour seule défaite de l'Américain.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé tôt ce matin au Mali. La visite de Sergueï Lavrov s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération décrite comme mutuellement avantageuse entre Bamako et Moscou. Le point avec Mariam Kouyaté, notre correspondante dans la capitale malienne.
Le diplomate russe à la tête d'une forte délégation a été accueilli tôt ce matin à son arrivée à l'aéroport Modibo Keïta par son homologue malien Abdoulaye Diop, ministre. Les deux hommes ont d'abord eu un tête-à-tête suivi d'une séance de travail sur les intentions de la Russie avec le Mali. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, et son homologue Abdoulaye Diop ont été face à la presse pendant 40 minutes. Selon le ministre Lavrov, la Russie compte apporter dans un bref délai son soutien dans le domaine économique, commercial, humanitaire et surtout sécuritaire.
Nous allons diriger les entrepreneurs de notre pays pour qu'ils puissent travailler sur ces questions. Et nous espérons que dans le délai le plus bref, il y aura les livraisons du blé, des engrais, des produits pétroliers et d'autres produits stratégiques. L'année académique 2023-2024, nous allons augmenter le nombre des bourses qui vont être octroyées aux étudiants maliens dans le domaine de l'augmentation de la capacité de combat des forces armées, la formation des militaires et des agents de maintien de l'ordre.
Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a salué la Russie pour ses soutiens qui ont contribué à garantir l'indépendance du Mali. Pour le chef de la diplomatie malienne, le choix porté sur la Russie pour renforcer la coopération n'est pas fortuit.
Cette décision est une décision des Maliens, une décision qui est prise en toute responsabilité. Et le Mali veut travailler avec la Russie comme le Mali veut travailler avec tous les partenaires qui inscrivent leur action fondée sur trois points. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali et enfin la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions prises.
C'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères russe visite officiellement le Mali après plusieurs années de coopération bilatérale. Le Mali fait face à l'insécurité depuis plus de 12 ans. Les relations avec son allié qui était la France se sont détériorées. Après donc le retrait des troupes françaises, la Russie est aujourd'hui un partenaire clé du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Sergueï Lavrov a aussi promis l'aide de Moscou au pays du Sahel et du Golfe de Guinée face aux djihadistes. Selon lui, la lutte contre le terrorisme est bien sûr d'actualité pour les autres pays de la région. Il a déclaré que Moscou va leur apporter assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays riverains du Golfe de Guinée. Mariam Kouyaté à Bamako pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVOA Afrique 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, les manifestations organisées hier à Goma pour dénoncer l'inaction de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est face aux rebelles du M23 ont causé de nombreux dégâts. Certains protestataires ont attaqué des commerces et des églises appartenantes au Banyamulenge des Tutsis congolais. Ces attaques à caractère ethnique ont été condamnées par les militants des droits de l'homme et le gouvernement congolais. Le reportage à Goma de notre correspondant Zanem Netizaidi.
À Goma, des manifestations lundi contre l'inefficacité des forces de la communauté d'Afrique de l'Est à rétablir la paix dans la région ont causé des dégâts importants. Les manifestants ont investi des magasins, restaurants, boutiques et des églises utilisées par les Tutsis congolais appelés Banyamulenge, accusés d'être des complices du M23. Le jeune manifestant, Patient Aristote, explique à tort ou à raison pourquoi il a participé à démolir une église fréquentée par les Banyamulenge, des Tutsis congolais.
Ces Tutsis nous font souffrir. Dans leur église, c'est le tribalisme. Ces lieux sont fréquentés par une seule ethnie, une ethnie qui continue à nous faire souffrir en tuant nos frères à Sake et partout ailleurs. Nous aussi, en signe de représailles, démolissons leur église et faisons en sorte qu'il ne reste que poussière.
Une attitude que décourage cet autre jeune de Goma qui pense que les manifestations s'éloignent souvent de leurs objectifs et laisse place à la barbarie, selon Philemon Mapendo.
Ce n'est pas une manifestation, mais il y a eu le vandalisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de pillages, beaucoup de destructions, et nous sommes sur les terrains. Vous voyez tout ce que les jeunes ont fait, et c'est une action que moi je condamne.
Paulin Mouniagala, un jeune activiste, estime que ces actes ternissent l'image de la jeunesse congolaise et ne devraient pas rester impunis.
Je vis les jeunes, c'est les jeunes gens qu'on disait être des jeunes congolais qui se sont attaqués à des églises, par exemple des Banyamulenge. Et là, j'ai vu comment les jeunes, au lieu de montrer cet esprit-là patriotique, les jeunes étaient en train de s'attaquer à des maisons, à des églises, à les piller systématiquement.
Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Muyaya, a également condamné des dérapages observés dans les manifestations à Goma.
Cela ne pourra que faire les jeux de l'ennemi, parce que lorsque vous versez dans des activités de ce genre, une infiltration n'est pas loin, et vous savez quel est le discours que tient le Rwanda au quotidien pour justifier son inutile guerre en République démocratique du Congo, c'est dire qu'il y a une guerre ethnique, c'est dire qu'on s'en prend aux Tutsis. Il faut éviter justement que les infiltrés rwandais qui sont partout ne puissent profiter des événements de ce genre.
La situation est restée tendue ce mardi à Goma. Toutes les activités ont été paralysées malgré la forte présence des policiers et des soldats de la garde républicaine dans la ville. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
En République centrafricaine, de violents combats ont été signalés le mois dernier près de la frontière soudanaise entre les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement et l'armée appuyée par le groupe russe Wagner, lequel est présent dans le pays depuis 2018. Pour Daniel Bouessel, consultant à l'International Crisis Group, ces affrontements démontrent un regain d'activité des groupes rebelles, mais aussi une bataille pour le contrôle des ressources minières de la Centrafrique. Abdourahman Dia a joint à Marseille Daniel Bouessel.
Alors, il est très difficile d'obtenir un bilan humain donc de ces combats qui sont déroulés fin janvier, puisque la Vakaga est une zone extrêmement reculée où il est difficile de collecter des informations. Effectivement, Wagner aurait subi des pertes là-bas, mais ces pertes ne seraient peut-être pas aussi importantes que ce que la CPC annonce. Il faut prendre avec des pincettes, effectivement, les déclarations de la CPC, puisqu'elle est partie au conflit et que la guerre informationnelle fait partie de ces affrontements.
Alors Charles, vous dites que ces combats se sont déroulés vers la frontière soudanaise. Qu'est-ce que cela traduit dans l'évolution du conflit en Centrafrique entre ces groupes armés et le gouvernement et les troupes gouvernementales appuyées par Wagner?
Bien d'abord, il faut voir qu'on est arrivé à la fin d'un cycle de 10 ans depuis le dernier putsch militaire commis par des rebelles en Centrafrique, et on peut craindre que ces combats augure d'une nouvelle tentative de déstabilisation en Centrafrique. On voit une augmentation forte de l'activité rebelle centrafricaine dans le pays. Et peut-être la nouveauté, c'est cette imbrication interrégionale entre le Soudan, le Tchad et la Centrafrique, avec des tensions dans chaque pays qui s'exportent dans les autres pays. Il faut rappeler donc qu'on a au Soudan donc ces deux factions, l'une pro-occidentale, l'autre pro-russe. Nous avons la Centrafrique qui est donc un allié de la Russie et le Tchad un allié de la France. Et on peut craindre donc que les tensions entre la Russie et l'Occident s'exportent dans ces trois pays.
Alors, Wagner est présent en Centrafrique depuis 2018. Quel est un peu son apport dans la lutte contre ces groupes rebelles, face aussi également à ces accusations que le groupe s'intéresse plus aux mines du pays?
Alors, on peut peut-être mettre au crédit de Wagner le fait qu'ils aient... Il soit parvenu jusqu'ici à maintenir le président Touadéra au pouvoir, notamment en début 2021, lorsque la CPC, cette rébellion, a tenté d'attaquer Bangui et s'est fait repousser, même si cette protection du président est également à mettre au crédit de la ministre onusienne sur place et d'autres partenaires bilatéraux de la Centrafrique, notamment le Rwanda. Ceci étant dit, Wagner n'est pas parvenu à réduire le potentiel de nuisance des groupes armés. Pour ce qui est des mines, effectivement, le groupe Wagner tente de s'autofinancer dans les pays où il est déployé.
Daniel Labouessel, consultant à l'International Crisis Group, était en ligne de Marseille, en France.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Ici aux États-Unis, les républicains de la Chambre des représentants avaient promis d'enquêter sur l'administration du président Joe Biden alors que le 118e congrès est en cours. Catherine Gibson, la correspondante de la VOA au congrès, nous donne un aperçu de leurs préoccupations sur l'immigration, le favoritisme politique et le traitement des documents confidentiels. Le récit est de Nanit Talani.
Foreign and domestic.
La Chambre des représentants, à majorité républicaine, a prêté serment le mois dernier, inaugurant une nouvelle ère d'un gouvernement divisé, et les républicains s'engagent à remplir le rôle de surveillance de l'exécutif.
Je ne pense pas qu'un Américain pense que la justice ne devrait pas être égale pour tous. Nous avons trouvé de cette administration ce qui s'est passé avant chaque élection. Tout ce qui sort qu'ils utilisent pour essayer de falsifier, ils essayent d'avoir des normes différentes pour leurs propres croyances. Cela ne fonctionne pas en Amérique.
Les républicains soutiennent que l'administration Biden a abusé de ses pouvoirs de la façon dont elle a géré la migration de masse à la frontière sud. Jim Jordan préside la commission des affaires judiciaires.
Mois après mois, nous avons établi des records pour les migrants entrant dans le pays. Et franchement, je pense que c'est intentionnel. Je ne sais pas comment quelqu'un, avec du bon sens ou de la logique, peut arriver à une autre conclusion. Cela semble délibéré et prémédité.
À la prétendue instrumentalisation du gouvernement fédéral à des fins politiques, James Comer préside la commission de surveillance.
Nous allons ramener cette commission à sa mission principale, et c'est pour s'assurer que l'argent des contribuables n'est pas mal géré, abusé ou gaspillé pour faire la lumière dans l'obscurité de la bureaucratie fédérale afin d'empêcher la corruption et les transactions personnelles, afin de s'assurer que notre gouvernement fédéral travaille efficacement pour le peuple américain.
Les républicains prévoient également des enquêtes sur la famille du président, sur son fils Hunter Biden, accusé d'avoir indûment bénéficié des avantages découlant des positions de son père. Mais les démocrates disent que les investigations vont cibler injustement le président, Hakeem Jeffries, leader de la minorité démocrate de la Chambre.
And it's very unfortunate.
Il est très regrettable que nous ayons vu cet agenda républicain MAGA extrême qui est apparemment ancré dans la destitution et les enquêtes axées sur les chasses aux sorcières, pas sur les familles des travailleurs.
Toute solution issue des audiences de la Chambre ne sera pas adoptée par le Sénat, contrôlée par les démocrates. La découverte de documents classifiés à la résidence de Biden va déclencher également une enquête de la Chambre. C'est un espoir pour les républicains avant les élections de 2024.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Gisèle Morissin. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle soirée sur VOA Afrique. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt.